Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre fidélité et bienvenue pour cette nouvelle émission des chroniques de Julien de Rubempré. Julien de Rubempré, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédacteur en chef du Nouveau Cénacle, un site consacré à la politique, à la littérature, mais aussi à la philosophie. Vous êtes passé par Louis Legrand et la Sorbonne, spécialiste de Balzac, spécialiste aussi de Victor Hugo. Et vous inaugurez aujourd'hui, Julien, ses chroniques. Consacré à l'histoire, chronique au cours desquelles vous allez vous donner une liberté de ton. Nous sortons des sentiers universitaires de l'histoire pour une approche plus littéraire et parfois, disons-le, philosophique. Le principe de l'émission est simple. Chaque mois, vous partagerez avec nous votre choix de lecture avec une approche thématique précise. Et pour ce premier numéro, vous avez retenu trois livres autour d'un thème, histoire et fiction. Le premier de ces ouvrages est signé Corrado Ogias, Les 18 dernières heures de Jésus, un ouvrage paru aux éditions Talendier. Et c'est un ouvrage, Julien, qui prend une certaine liberté avec l'histoire.
Tout à fait. D'abord, bienvenue à tous et merci Christophe Dicasse de m'accueillir dans votre émission. Effectivement, Corrado Ogias, quand même, juste pour préciser un peu qui c'est. C'est quelqu'un qui a écrit une enquête sur Jésus en 2006, qui a vendu 700 000 exemplaires. Et celui que je vais présenter aujourd'hui, donc les 18 dernières heures de Jésus, on en est, au dire de l'éditeur, autour de 300 000 exemplaires. Donc c'est un vrai phénomène de librairie dont il est question. Et comme vous le disiez justement, il prend des libertés avec les faits historiques. Et justement, ce que je voulais un peu parler aujourd'hui, c'était les rapports entre la fiction et l'histoire. Non pas en quoi l'histoire permet la fiction, sur le modèle qu'on connaît bien en France d'Alexandre Dumas, qui disait « l'histoire est un clou auquel j'attache mon tableau, donc il n'est pas question pour moi de vous parler du romanesque, etc. » Il est plus question de montrer en quoi la fiction peut servir l'histoire. Et c'est en cela que ce livre de Corrado Ogias est intéressant. Parce que on le sait, dans les au niveau des récits bibliques, soit le Nouveau Testament ou les Actes des Apôtres, il y a des blancs qu'il s'agit de combler, et donc pour cet auteur, avec la fiction, il peut y arriver. Alors c'est un livre assez curieux que j'ai beaucoup apprécié par ailleurs, même s'il y a on a dit des libertés avec l'histoire. Il y a des erreurs assez grossières qui peuvent être assez dérangeantes de mon point de vue. C'est-à-dire que parler des enfants de Marie ou que Joseph, assez âgé, se soit ait quitté sa femme, tout ça, enfin pour moi, ça relève de la fantaisie, plus de l'histoire. Mais ça reste assez plaisant dans la mesure où, comme il le dit très bien lui-même, au niveau de ces rapports entre la fiction et l'histoire, là où l'histoire ne peut accéder, l'imagination et les intuitions du rêve, la fictio, se substituent à elle. Voilà. Donc il part d'un travail au niveau des sources qui est assez intéressant, je dois le noter, même si on retrouve toujours un peu les mêmes dans ces cas-là, c'est pas vous qui me contredirez, Tacite, Flavius Joseph, etc. Mais dans sa manière de, si vous voulez, d'instruire un procès, sur ce qui va être donc ces dernières heures de Jésus et donc le procès de Jésus, en donnant la parole à tous les grands personnages, Ponce Pilate, sa femme Claudia, il écrit même un témoignage de Judas qui est assez savoureux, mais en se basant encore une fois sur un évangile, donc l'évangile de Judas qui est un apocryphe, donc qui historiquement, si vous voulez, n'est pas une pièce recevable pour un historien rigoureux. Voilà. Donc c'est un peu ce que je voulais dire concernant ce livre, mais je le conseille malgré tout. C'est paradoxal parce que sa lecture est très plaisante, et c'est une manière de percevoir un temps. Comme je le disais à propos de ce livre il y a peu, il rend très bien ce qu'était cette ville, Jérusalem à cette époque, qui était ses parfums, son bruit, sa fureur. On a du mal à se rendre compte, puis il parle très très bien des apports de la mentalité latine qui se confronte à la mentalité juive, etc. C'est assez particulier comme lecture, mais je comprends tout à fait les 300 000 exemplaires vendus parce que c'est plus ou moins accessible. C'est une bonne entrée en matière pour qui souhaite s'intéresser à cette époque. Voilà. Je tiens à préciser aussi que c'est pas un livre édifiant comme on disait avant. C'est pas l'imitation de Jésus-Christ. Ce n'est pas un livre religieux. Ce n'est pas un livre religieux. C'est ça, exactement.
Et encore moins spirituel.
Encore moins spirituel. Hein.
Alors l'autre ouvrage que vous avez sélectionné, c'est une réédition dans la collection Tempus, donc les éditions de poche des éditions Perrin, et c'est un classique de la littérature latine, des études antiques. Il s'agit du livre de Pierre Grimal, L'âme romaine. Pierre Grimal, donc, qui était académicien, qui était un latiniste de renom, un philosophe, un humaniste. Aujourd'hui, où, triomphent les spécialisations, lui, Pierre Grimal, était un puits de science et un homme avec une culture absolument gigantesque, un homme rare. Que l'on qualifierait de rare aujourd'hui.
Oui, il est à l'image de Jacqueline de Romy, Paul Venn, et d'ailleurs, c'est pas innocent, son livre, il le signe pour les générations futures. Il pressentait, si vous voulez, cet effondrement de notre héritage gréco-latin, que ce soit dans l'enseignement, même tout simplement dans notre culture. Et ce livre-là, si vous voulez, on est encore au-delà de la fiction. Bien sûr, c'est une fiction. C'est un dialogue entre le futur Marc Aurèle, qui s'appelle Marcus dans le livre, avec son maître, qui s'appelle Fronton. Et donc, son maître lui explique qu'est-ce que Rome, la mémoire de Rome, la langue de Rome, les monuments, la mentalité, comment s'y prendre pour être un bon chef. Et il insiste, si vous voulez, chapitre après chapitre, sur des notions de philosophie, d'histoire. Il revient sur les fondations de Rome. Et ce qui est très amusant, c'est que là, on est quasiment dans le dialogue platonicien. Ça m'a fait penser à ça, et je pense que, connaissant l'auteur, qu'en Italie, on appelle quand même le dernier Romain. Donc ce n'est pas neutre. On est dans un dialogue philosophique qui reprend à peu près tous les thèmes qu'on connaît. Et il y a un moment assez décisif dedans, quand il dit que aux Grecs appartiennent la raison et aux Romains appartiennent l'âme. Donc c'est pour ça qu'il intitule ce livre L'âme romaine. Parce que pour Grimal, on le sent à travers chaque ligne, il y a cette nuance. Et alors là, faut rentrer dans des considérations philosophiques, et je laisse le soin aux spécialistes de s'y intéresser. L'âme romaine, qu'est-ce qui constitue l'âme romaine? Donc son imagerie, sa mentalité, sa peur des défaites, quel respect envers les morts. Personnellement, et c'est un peu le fil conducteur pour cette émission, avec un livre comme celui-là, on pénètre, si vous voulez, on fait pas l'histoire antique au sens propre du terme, mais on comprend la mentalité. Et pour faire ce lien entre littérature et histoire, parce que comme vous l'avez dit à la base, je suis quand même un littéraire, pour moi, ce que peut apporter la littérature à l'histoire, c'est ce que l'historien ne peut pas apporter, parce qu'il doit s'en tenir à une rigueur universitaire. Et comme on ne me contredirait pas non plus sur le style de l'historien, qui peut être tout à fait agréable, mais qui ne peut pas rentrer dans des subtilités lexicales ou poétiques. Et Grimal s'en sort très bien de ce point de vue-là.
Est-ce à dire que le livre « L'âme romaine » de Pierre Grimal est un livre qui précisément a une âme ?
Il a une âme, il en a même deux, parce que les deux personnages sont très très attachants, c'est très réussi. Personnellement, je l'ai lu en une soirée ou deux, et j'ai pas décroché. Je l'ai annoté de partout. J'ai corné je ne sais pas combien de pages. Pour moi, c'est un. Je le conseille surtout. On peut le lire, je pense, assez jeune. Je pense qu'on peut même le.
Alors, il est dédié ce livre à tous les jeunes curieux de connaître leurs racines. Je me permets de renvoyer nos auditeurs à l'émission avec Sébastien Morlet qui s'appelle christianisme et culture. La culture, en l'occurrence, c'est la culture grecque, la culture hellénique, et il n'y avait qu'une culture à l'époque de l'Empire romain. C'était bien cette culture grecque, mais comme vous l'avez dit, qui a été transcendée par cette âme romaine.
Exactement, exactement.
Donc Pierre Grimal, l'âme romaine, dans la collection Tempus, donc des éditions Perrin. Et enfin, dernier ouvrage, alors je pense que nos auditeurs le connaissent, mais il fait l'objet d'une publication en poche, donc chez Folio, Emmanuel Carrère, Le Royaume. Et on peut dire que c'est le dernier grand ouvrage, dernier grand roman historique, mais qui a une qualité de recherche que l'on voit très rarement, que l'on on pourrait comparer Carrère à ce qu'était Umberto Eco, par exemple, pour le Moyen-Âge.
Ouais, je n'ai pas beaucoup de mots pour cerner le royaume d'Emmanuel Carrère. J'ai du mal à considérer cela comme un roman. C'est une autofiction, clairement, selon la grande catégorie de ces 30 dernières années. Il se met en scène. Alors ce choix peut surprendre dans une émission d'histoire, mais il se présente lui-même, Emmanuel Carrère, tout au long de l'ouvrage, comme un enquêteur. Et donc ça renvoie dans certaines mémoires à l'enquête d'Hérodote. Et il se plonge dans un impressionnant travail au niveau des sources et au niveau de l'écriture. En fait, ce livre, c'est l'histoire de... Il a été croyant pendant 3 ans. Et donc il réfléchit sur ces 3 ans, et durant ces années il a pris des notes chaque jour sur ses lectures des évangiles, et à l'en croire il en aurait écrit 17 cahiers dessus. Donc c'est un livre qui lui a pris 7 ans quand même à écrire, et il revient, donc on retrouve notre fameux Flavius Joseph dont je parlais au début pour Corrado Ogias. Il n'y a pas que lui, il passe en revue toute la littérature latine, les historiens juifs, et par contre c'est pas lourd à lire. Hein. Honnêtement, là encore, je l'ai lu, je l'ai dévoré, je l'ai pas quitté. J'ai passé quasiment une nuit blanche dessus, c'est absolument merveilleux. Et ce qui est frappant en lisant ce livre, c'est qu'en faisant l'histoire, Emmanuel Carrère fait son histoire. Voilà, parce que... On connaît toutes les théories autour de l'ego-histoire, etc. Emmanuel Carrère, à travers sa propre histoire, fait de l'histoire avec un grand H, en essayant en convoquant un nombre incalculable de sources. Certaines sont contestables de ce que j'ai pu comprendre, mais il y a un travail en amont de ce livre qui force le respect. Il y a son style, alors je ne sais pas si nos auditeurs liront ou ont lu Limonov, L'Adversaire, D'autres vies que la mienne. On retrouve la patte de Carrère, son humour. Il y a des passages absolument merveilleux où on rigole, mais si des auditeurs lisent ce livre, j'espère qu'ils seront touchés autant que moi par sa fin. Voilà. La fin, évidemment, je peux pas la dire, mais c'est absolument merveilleux.
Donc est-ce qu'on peut dire que c'est un livre qui est à la frontière de l'histoire et de la foi ?
Alors, étant donné que l'auteur l'écrit en ayant perdu la foi, en fait, il s'interroge comment cela a pu être possible, ne serait-ce que d'avoir eu la foi, et comment ce qu'il appelle cette petite secte aux tendances staliniennes, ce sont ses mots, hein, mais évidemment toujours avec beaucoup de second degré, dans ce qu'il appelle aussi cette pétodière coloniale de Jérusalem, comment ça a pu inonder le monde entier. Donc c'est pour ça qu'il interroge un nombre de sources absolument incroyables. Pourquoi les premiers chrétiens se sont installés en Asie, pourquoi ils sont allés jusqu'à Rome au péril de leur vie. Et encore une fois, comme chez Corrado Ogias, il y a des trous, les sources ne disent pas tout. Et en fait, avec sa science de romancier, il se dit tiens, eh bien, ça va être à moi de les combler. Donc c'est pour ça il s'attache beaucoup à Luc, personnage de Luc, et il s'y intéresse en tant qu'écrivain et dans un rapport d'auteur à auteur. Et donc il prend la plume à sa place parfois pour essayer de raconter un peu ses pérégrinations. Et donc c'est drôle, c'est émouvant, vous allez pleurer, vous allez rire, honnêtement, voilà, vous me remercierez.
Eh bien, c'est moi qui vous remercie, Julien. Donc, Emmanuel Carrère, Le Royaume, paru en poche aux éditions Folio. L'âme romaine, Pierre Grimal, dans la collection Tempus des éditions Perrin. Et enfin, aux éditions Talendier. Corrado Augias, les 18 dernières heures de Jésus. Merci encore, Julien.
Merci à vous.
Rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles chroniques.